Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce numéro 119 d'Europa Voice. Aujourd'hui, on va parler de la rencontre entre Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine en Russie, ainsi que des élections à venir au Royaume-Uni, avec ce que ça implique pour les travaillistes. Et bien sûr, pour aborder ces deux sujets, je suis accompagnée de Nathanaël Blog. Bonjour Nathanaël.
Bonjour Marianne.
Le 4 septembre, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est rendu sur les bords de la mer Noire en Russie, à Sotchi précisément, pour des pourparlers avec son homologue russe. L'objectif était d'afficher, Nathanaël, convaincre Vladimir Poutine de relancer l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Nathanaël, qu'est-ce qui est ressorti de ces discussions bilatérales?
Un échec, Marianne, pour être très transparent. C'est-à-dire que Erdogan était effectivement venu à la fois parce qu'il a un intérêt économique et de stabilité dans la région de relancer cet accord sur l'exportation des céréales. Ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, c'est que aussi, ça aurait été pour Erdogan une victoire diplomatique de remettre Poutine à la table des discussions sur ces accords céréales. Et en fait, c'est un échec et une menace sur les deux aspects pour Erdogan. Et donc, maintenant, c'est un peu l'expectative en termes de à la fois la relation entre la Russie et la Turquie, puisqu'on sait, Marianne, que cette relation était refroidie, enfin, les relations entre les deux leaders n'étaient pas au beau fixe les derniers mois. Ça, c'est le premier élément, c'est quid de la future relation entre les deux pays, et puis aussi de la stabilité, en fait, du monde, mais surtout de certains pays limitrophes de la Turquie et de certains pays africains qui sont extrêmement dépendants de ces exportations de céréales. Donc c'est vraiment pour Poutine jouer avec le feu et créer encore un peu plus d'instabilité et d'insécurité alimentaire qui se rajoute à déjà tous les facteurs d'instabilité dus au conflit entre la Russie et l'Ukraine qui dure maintenant depuis près de 18 mois.
Les exportations de céréales en tant que telles, on va y revenir dans un instant parce que vous l'avez dit, ça évoque beaucoup de questions sur les pays africains, sur les alternatives que peut mettre en place Kiev, sur le pourquoi Vladimir Poutine refuse de relancer cet accord. On va en parler dans un instant, mais restons sur Recep Tayyip Erdogan. Vous l'avez dit, pour lui, il y avait d'autres objectifs que relancer cet accord. On le rappelle, l'accord d'exportation des céréales ukrainiennes en 2022, c'était sous l'égide de l'ONU et de la Turquie. Vous venez de le dire, il y avait d'autres objectifs dans la tête, cette fois de Recep Tayyip Erdogan, qui étaient des objectifs assez personnels. Erdogan, il a été longtemps l'allié de la Russie. Aujourd'hui, il est accusé par Moscou d'avoir opéré un virage pro-occidental. Ça dit quoi de sa place à lui en tant que président turc aujourd'hui dans la région?
Alors effectivement, pour revenir Marianne d'abord sur le virage pro-occidental de la Turquie, en tout cas l'interprétation, le ressenti qu'en a Poutine, il recouvre plusieurs aspects. Il recouvre le fait d'abord que la Turquie s'était disposée à lever son veto sur l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Ça, c'était un premier élément qui avait fortement irrité Moscou. Mais Erdogan était même allé un cran plus loin et il avait affirmé à plusieurs reprises que l'Ukraine, et il l'avait dit hein, à Zelensky, que l'Ukraine méritait d'intégrer l'Alliance Atlantique, l'OTAN. Donc ça, c'est vraiment pour Poutine une sorte de trahison et un virage pro-occidental pour la Turquie. Ensuite, il y a un deuxième élément qui font que les tensions se sont extrêmement accrues entre la Russie et la Turquie, c'est que Zelensky était venu à Istanbul en juillet dernier et que Erdogan l'avait autorisé à ramener à Kiev les commandants du bataillon Azov. Et ça avait vraiment été décrit comme un coup de poignard dans le dos par le Kremlin, par Poutine. Et c'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase sur la perception, encore une fois, russe du virage pro-occidental de la Turquie. Donc ça, c'est sur la relation entre les deux acteurs. Et puis après, par rapport, évidemment, on l'a mentionné, l'aspect diplomatique, il y a un G20 qui a lieu en ce moment même en Inde. Et évidemment, pour Erdogan, ça aurait été une victoire diplomatique de venir à la table de ce G20 et d'affirmer qu'il est celui qui a ramené encore une fois Poutine à la table des négociations et qui a permis de remettre cet accord sur les céréales sur pied. Donc à la fois, c'est une déception, mais c'est une déception pour les relations entre la Russie et la Turquie, et ça montre que les relations ne sont pas prêtes de se réchauffer, mais c'est aussi presque un échec diplomatique pour Erdogan qui pensait certainement qu'il pouvait, encore une fois, ramener Poutine à la table de ces discussions sur les exportations céréalières.
Mais et donc pour que nos auditeurs comprennent bien pourquoi Vladimir Poutine, alors qu'il avait accepté cet accord en 2022, le refuse? Quels sont les arguments de Vladimir Poutine pour refuser de réinstaurer cet accord sur les exportations de céréales ukrainiennes?
En termes déjà de chronologie, donc le conflit a commencé en février 2022 entre la Russie et l'Ukraine, et la Russie avait bloqué les ports ukrainiens de la mer Noire. Il a fallu attendre 6 mois, 5 mois, pour avoir un accord négocié, vous l'avez mentionné Marianne, important aussi pour nos auditeurs d'Europa, effectivement par les Nations Unies et la Turquie, pour garantir la sécurité et le passage de cargos le long d'un corridor extrêmement étroit de la mer Noire, de plus de 300 000 nautiques à destination et à provenance de 3 ports ukrainiens. C'est-à-dire que la Russie permettait que 3 ports ukrainiens assurent le transport de ces exportations céréalières. Mais en fait, la Russie avait refusé en fait de renouveler cet accord, principalement en fait parce que, pour nos auditeurs d'Europa Voice, on en avait beaucoup parlé, la communauté internationale avait sanctionné la Russie et l'avait enlevée du système de paiement mondial SWIFT pour geler en fait les avoirs des oligarques russes à l'étranger, et donc des grandes sanctions financières, et notamment par le système de paiement, enfin le fait que la Russie n'était plus intégrée dans le système de paiement mondial SWIFT. Et en fait, la Russie avait demandé à être réintégrée dans ce système de paiement mondial pour renouveler cet accord sur les exportations de céréales. Et évidemment, la communauté internationale l'avait refusé, il n'était pas parvenu à atteindre un accord, et c'est la raison principale pour laquelle la Russie a refusé de renouveler cet accord sur les exportations céréalières. Les Nations Unies avaient proposé un tas d'alternatives, mais aucune n'était assez bonne pour que la Russie accepte, et donc a refusé la Russie de renouveler cet accord sur les exportations céréalières.
Vous venez de le mentionner, des alternatives, certes refusées par Moscou, mais aujourd'hui, comment on peut faire? On va parler dans un instant des conséquences du refus par Moscou de réintégrer cet accord, parce que des conséquences, il y en a, notamment pour l'alimentation mondiale, des énormes conséquences sur certains pays africains, bien que Vladimir Poutine a accepté de livrer des céréales à certains pays d'Afrique, on va en parler dans un instant. Mais d'abord, c'est quoi les alternatives? On sait que Kiev a finalement quand même envoyé des cargos avec le risque de voir ses navires couler.
Alors, c'est Marianne, ça, c'est pas une alternative, ça, c'est une réaction de Kiev qui a pris un risque d'envoyer quand même des cargos. Mais ce que ça dit aussi sur le plan politique et diplomatique, c'est qu'on est à un point de tension qui fait qu'on est sur une ligne de crête vraiment. Et le jour où des cargos ukrainiens seront coulés par des bombardements russes, le conflit atteindra encore un nouvel épisode de crispation. Donc, pour l'instant, encore une fois, les alternatives étaient plutôt des alternatives par rapport au système de paiement mondial SWIFT. Par exemple, les Nations Unies avaient suggéré que la Russie ouvre une filiale de sa banque agricole qui soit elle-même incluse dans le système SWIFT, mais la Russie avait rejeté cette proposition, arguant que ça allait prendre trop de temps. Donc là, sur toutes ces suggestions un petit peu techniques par rapport au système de paiement mondial, par rapport à SWIFT, il n'y avait pas d'accord qui a été trouvé. Donc pour l'instant, aujourd'hui, encore une fois, à part des initiatives isolées et des décisions qui sont prises de manière unilatérale, d'un côté la Russie qui décide quand même de fournir des céréales à 6 pays africains, de l'autre côté l'Ukraine qui décide de braver l'embargo russe, à part ces décisions qui sont unilatérales, il n'y a pas d'alternative et on voit mal en fait quand est-ce que les deux acteurs, et enfin en tout cas quand est-ce que la Russie renouvellera cet accord sur les exportations céréalières.
Les 6 pays africains dont vous avez parlé, c'est le Burkina Faso, le Zimbabwe, le Mali, la Somalie, la Centrafrique et l'Érythrée. Ils ont tous comme point commun de ne jamais avoir dénoncé l'invasion russe en Ukraine en 2022. Vous l'avez dit, Vladimir Poutine, la Russie en tout cas fournit des céréales à ces 6 pays en toute petite quantité par rapport à ce que la Russie pourrait fournir par rapport à ce qui est produit. On y arrive, Nathanaël, le refus de Moscou de réintégrer l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes, quel est le risque? Quelles peuvent être les conséquences mondiales?
Alors, il y a plein de conséquences. D'abord, s'il y a moins de céréales, c'est un prix des denrées alimentaires mondiales qui grimpe. Ça, c'est le premier élément. On risque d'arriver à des prix exorbitants d'un nombre incalculable de denrées alimentaires. Et d'ailleurs, quand l'accord lui-même avait été signé l'année dernière et que les exportations de céréales avaient repris, les prix mondiaux de denrées alimentaires avaient chuté de 20%. Donc, il y a vraiment un impact direct entre cet accord sur les exportations céréalières et le prix de ces denrées alimentaire, ça c'est la première chose. Et puis après, encore une fois, au-delà du prix lui-même, c'est de l'instabilité politique, des mouvements de foule, des rébellions dans des pays qui, j'allais dire, sont déjà sujets à une certaine instabilité politique, ce qui explique aussi que Vladimir Poutine, certainement, a décidé quand même de continuer et de fournir 6 pays africains en céréales. Voilà, et puis j'allais dire, donc, il y a le prix des denrées alimentaires, il y a le niveau au-dessus qui est celui de l'instabilité politique, et il y a même, je dirais, un niveau au-dessus, c'est-à-dire que derrière ces exportations, il y a des relations économiques entre la Russie et certains pays qui eux-mêmes vont transformer ces céréales pour après les revendre. Je pense notamment à des pays comme le Qatar. Et donc, ce refus de Moscou va avoir aussi des conséquences sur des relations bilatérales avec des acteurs extrêmement importants de la région du Golfe, par exemple. Donc, vous voyez, c'est des conséquences sur 3 niveaux. Le prix des denrées alimentaires, l'instabilité politique et les relations bilatérales entre Moscou et certains de ses alliés affichés dans la région.
Merci beaucoup Nathanaël. Affaire à suivre, donc on en parlera sûrement dans de prochains épisodes d'Europa Voice. On va passer à notre deuxième sujet. Au Royaume-Uni, les esprits sont déjà à 2024 avec les élections générales qui va voir le pays soit reconduire le conservateur Rishi Sunak, soit se doter d'un nouveau Premier ministre. Et d'après les sondages, les travaillistes qui n'ont pas gouverné depuis 14 ans, il faut le dire, pourraient revenir au pouvoir. Alors Nathanaël, je sais déjà ce que vous allez me répondre. On ne lit pas dans les boules de cristal à Europa Voice, mais est-ce que les jeux sont faits?
Je confirme effectivement, Marianne, à Europa Voice, on ne lit pas dans les boules de cristal, mais on utilise les sondages et les études d'opinion qui sont faites sur les élections pour essayer d'informer au mieux les électeurs, excusez-moi le lapsus, mais les auditeurs d'Europa Voice. Depuis plus d'un an, en fait, dans les sondages d'opinion qui sont faits au Royaume-Uni, on a un écart qui a oscillé entre 15 et 20 points sur des projections aux prochaines élections législatives au Royaume-Uni. Donc c'est énorme. C'est-à-dire que selon, encore une fois, les sondeurs, qui eux-mêmes ne lisent pas dans les boules de cristal, mais utilisent des méthodes tout à fait valables, effectivement, il semblerait qu'après 14 ans d'absence, les travaillistes reviennent au pouvoir au Royaume-Uni. Ça, c'est selon les sondages. Après, comme on l'a vu ces dernières années, au Royaume-Uni, il peut se passer plein de choses, juste parce que on a beaucoup traité avec vous, avec Christophe. À l'automne 2021, il y a eu le scandale des fêtes dans la résidence du Premier ministre de l'époque, Boris Johnson, en pleine période de confinement. Évidemment, personne ne s'attendait à cette espèce d'épisode strausskanien à l'échelle du Royaume-Uni. Donc, vous voyez, on a les sondages, on a effectivement cet écart qui est important de 15 à 20 points entre les deux partis, entre les Tories et le Labour, mais on n'est encore une fois pas à l'abri d'un événement qui fait que ça puisse changer et que les Tories s'accrochent au pouvoir et remballe encore en 2024.
Mais justement, les conservateurs, donc, ils baissent dans les sondages, ils sont en chute libre dans la popularité, notamment Boris Johnson, vous l'avez dit, il a constamment été accusé d'être un menteur invétéré. Il y a aussi eu le passage catastrophique de Liz Truss hein, au 10 Downing Street qui n'a pas duré très longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui, le problème des conservateurs, des Tories, c'est un problème de politique dans le fond ou est-ce que c'est un problème de représentation?
C'est un problème, Marianne, j'allais dire en premier lieu, c'est aussi un problème d'usure du pouvoir. C'est-à-dire que 14 ans à la tête au 10 Downing Street, forcément, il y a un moment où il y a cette usure du pouvoir, il y a cette volonté de changement de la part des électeurs, et puis il y a aussi la réalité du post-Brexit. Hein. Pareil, hein, dans les sondages d'opinion, on voit bien que les habitants du Royaume-Uni sont beaucoup moins convaincus des bénéfices du Brexit qu'ils ne l'étaient déjà quelques semaines après l'entrée en vigueur, pardon, du Brexit, et qu'ils ne l'étaient encore plus quelques mois avant le Brexit au moment des promesses de campagne. Donc il y a l'usure du pouvoir, il y a la volonté de changement, il y a les conséquences du Brexit qui font qu'effectivement, il semblerait qu'en termes de timing, les travaillistes aient des cartes en main pour pouvoir proposer un nouveau projet. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, Marianne, c'est que moi, il y a deux aspects que je trouve intéressants dans cette campagne à venir. C'est d'abord qu'il y a eu un changement de pouvoir aussi du côté des travaillistes, avec l'arrivée du travailliste Keir Starmer pour prendre les rênes du Labour. Donc, c'est-à-dire qu'aussi les travaillistes ont compris qu'il y a une usure du pouvoir aussi, en quelque sorte, qu'il y avait une usure du pouvoir avec Jeremy Corbyn, plein de raisons. Donc, il y a eu un changement de leadership aussi du côté des travaillistes, qui est important. Et puis, surtout, il y a une réelle politique aussi des travaillistes, c'est-à-dire qu'on est beaucoup moins sur un projet de rupture tous azimuts, et on est vraiment sur un recentrage du projet travailliste. Presque, on est sur un New Blair. On avait déjà le New Blairisme, là, on est sur un New Blairisme. Et donc, ça aussi, c'est un argument de vente qui peut ou pas convaincre les électeurs. Mais en tout cas, il y a d'un côté l'usure du pouvoir chez les Tories et il y a la proposition de quelque chose d'autre, d'un autre leadership, mais sur des bases aussi différentes politiques qui étaient proposées par Jeremy Corbyn.
Parlez-nous justement de ce leader des travaillistes, hein, Keir Starmer. Vous avez évoqué son nom, pressenti éventuellement donc pour devenir le futur Premier ministre du Royaume-Uni. Il est connu pour être très de gauche et à l'époque, quand il est arrivé au pouvoir en 2020, enfin quand il est arrivé au pouvoir, pardonnez-moi à mon tour de faire un lapsus, quand il a pris la tête des Tories en tout cas, il était vu comme une personnalité idéale puisque c'est l'antithèse de son prédécesseur Jeremy Corbyn. Est-ce que le Royaume-Uni est prêt à remettre le Labour sur le devant de la scène? Vous venez de parler de changement de politique. On vient de le dire, Keir Starmer, il est de gauche, mais déjà on voit qu'à l'approche des élections législatives de l'année prochaine, son programme est déjà en train de changer pour aller vers le centre, voire sur certaines mesures carrément à droite. Pourquoi ce changement à un an des élections? Est-ce que c'est exactement ce que vous venez de dire, parce qu'il faut refonder le parti de l'intérieur?
Alors moi, je vais faire un peu un pas de côté et du benchmark politique, Marianne. Si on prend l'exemple français, on voit de plus en plus, on a l'impression qu'il y a d'une certaine façon deux gauches qui sont irréconciliables. La gauche républicaine, théoriquement le Parti socialiste, et l'extrême gauche, la NUPES, le parti de Jean-Luc Mélenchon. Il y a ce débat, il existe ce débat, je ne dis pas qu'il est fondé à 100%, mais il y a ce débat en tout cas qui traverse la société française, qui traverse la politique française et qui traverse les électeurs de gauche. Et ben on a l'impression que avec les premières prises de position de Keir Starmer au UK, il y a aussi cette volonté de montrer que sa gauche à lui n'a rien à voir avec une autre gauche avec laquelle il est irréconciliable. Et je dis ça notamment par rapport aux prises de position sur les dérives antisémites de Jeremy Corbyn, où une des premières choses qu'a faites Keir Starmer quand il a été désigné par les membres du Labour en 2020, c'était de demander pardon au nom du parti par rapport aux dérives, à ce qu'il a lui-même qualifié comme dérives antisémites de ces dernières années et ce qui avait discrédité le leadership du parti. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que là, au-delà du programme, on est vraiment sur des visions de société, sur une idéologie qui paraît à l'opposé de celle de Jeremy Corbyn. Et c'est presque une manière de solder l'héritage de Jeremy Corbyn de ce sujet-là, une des premières prises de position. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, effectivement, qui lui se traduit plus par de la stratégie politique, c'est de recentrer le parti, comme vous l'avez dit. C'était de faire que, notamment dans la nomination, c'est comme en Australie, hein, le parti qui n'est pas au pouvoir nomme un cabinet fantôme. C'est-à-dire que chaque ministère des Affaires étrangères, de l'économie, etc., vous nommez un ministre de l'opposition, ce qu'on appelle un ministre de l'ombre, un shadow ministre. C'est comme si aujourd'hui les Républicains avaient leur shadow ministre des Affaires internationales, leur shadow ministre de l'économie. Donc au Royaume-Uni, c'est pareil, le Parti travailliste nomme des shadow ministres, des ministres fantômes pour tous les portefeuilles du gouvernement. Ça permet aussi de préparer ces ministres-là en cas de prise de pouvoir. Eh bien, on le voit même dans les nominations, dans les changements qu'il opère au sein de son cabinet fantôme. Il y a, de par les figures historiques qui sont remplacées, de par les figures qui avaient un rôle important sous Tony Blair, de par leur nomination, il y a vraiment une volonté de recentrer le parti, de l'éloigner un petit peu de ses positions de gauche extrême et de le recentrer pour en faire encore une fois une espèce de new blairisme, peut-être plus compatible avec ce que les électeurs du Royaume-Uni attendent. Donc, à la fois en termes de, j'allais dire, de prise de position symbolique mais forte par rapport à Jeremy Corbyn, mais même par rapport à ce que Starmer est en train d'organiser avec son gouvernement fantôme, on le voit, il y a cette volonté d'influer une nouvelle énergie à gauche et au Parti travailliste au Royaume-Uni.
Et ayant dit tout ça, est-ce que Keir Starmer a les épaules de leadership pour gérer le Royaume-Uni, pour devenir Premier ministre?
Alors, est-ce qu'on a les épaules qui se gonflent une fois qu'on accède aux responsabilités? C'est toujours une question qui est à laquelle il est difficile de répondre. Après, c'est vrai qu'il a une expérience politique assez nouvelle, hein. C'est quelqu'un qui est rentré en politique il y a moins de 10 ans. Quand il a d'ailleurs accédé à la tête du Parti travailliste, ça faisait à peine 5 ans qu'il était, en 2020, 5 ans qu'il était en politique. Starmer, c'est un ex-avocat qui est spécialiste des droits humains. Donc, ça veut dire qu'il a quand même une appétence au combat, aux causes, une propension à s'exprimer en public, voilà, à défendre des dossiers qui sont compliqués. Après, difficile encore une fois de dire est-ce qu'il a ou pas les épaules. En tout cas, il semble qu'il met tout en œuvre pour être prêt le moment venu, si les travaillistes devaient revenir au pouvoir, à assurer ses fonctions et et à incarner la fonction au 10 Downing Street.
Et bien, réponse l'année prochaine. Les élections générales n'ont pas encore de date, mais on sait qu'elles auront lieu avant la fin 2024 au Royaume-Uni. Merci beaucoup, Nathanaël. Messieurs, dames, merci pour votre fidélité. C'était Europa Voice numéro 119. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Salut, Nathanaël.
Salut Marianne.